n'as-tu jamais entendu dans cette jaune, le jaune, le jaune, le jaune, les cris et les plaintes des forces à modèle. À quoi vous criez dans cet univers des humanisés, les murs et les portes n'auront plus d'oreilles. La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand vous pouvez cantiner, je dois vous l'honner. Mais quel est le goût de votre prétendue liberté, celle qui tous les jours vous envoie bosser? Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai mon ventre et baron. Fini le rigole, mais le bon et les lourdes peines, elle rentre libérée, nous ferons tout brûler.
Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent en allongeant la liste des délits et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique, à la mode, pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État et désamorcer, assimiler, digérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Bruit de tôle, au sommaire de cette émission de jeudi 22 juillet, nous commencerons l'émission avec le témoignage de l'arrivée en prison. Puis, sur la question en prison, ce sera le communiqué concernant la situation de Jennifer Assays, une censure de questionnaire de l'OIP à Arles et l'incontournable dossier de la surpopulation carcérale en France. Question surveillance de la population, nous traiterons le cas d'une militante qui était fichée S et qui a réussi à se faire effacer de ce fichier. Le traitement des personnes migrantes en Grèce et en France, et pour finir, des annonces. Alors nous vous rappelons que l'émission est en direct le jeudi, tous les 15 jours, de 19h à 20h. Et pendant ce direct, si vous avez des informations, des annonces, vous pouvez nous appeler au 05 61 53 36 95. L'émission aussi est rediffusée le vendredi de 17h à 18h. Et c'est parti pour un peu de musique.
Cuando yo era niño de ti me enamoré y desde este momento en ti yo solo pensé. Crecía, crecía pensando en este día que tú conmigo vendrías a vivir la vida mía. Pero después te fuiste a otro país vivir y yo no sabía ni a dónde escribir. Ahora juntos de nuevo no me dejes así con el corazón ardiendo. No me dejes mami, yo quiero amor pa' mí. Amor pa' mí, todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Yo voy libre corazón, el sarreto viene pregonando. Libre corazón, boom, te lo digo, mami. Libre corazón y todo el mundo tiene que ir. Libre corazón para acabar con el odio. A libre corazón pa' que tiren armas al fuego. A libre corazón, boom, te lo digo, mami. Libre corazón, el sarreto viene pregonando. Libre corazón.
militar mata a su hermano. El derecho de ser humano es de ser un gusano, que por más pájaro que él tendrá que ser comido. Yo ya voy, yo ya sé, yo ya quiero. Amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Escucha, compay, lucha por la paz. Amigo, no le tires al amigo en la espalda. Hermano, no le escupas al hermano en la cara. El uso de violencia llama la venganza. La sangre llama la sangre, el orgullo la muerte. Yo no soy policía, yo no soy militar. Y a otro hombre yo no quiero nunca matar. Yo no soy policía, yo no soy militar. Y a otro hombre yo no quiero nunca matar. Amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti.
Et nous allons écouter Béton, qui est un nouveau projet. C'est un podcast qui veut entrer dans la réalité des prisons. Alors, c'est un projet indépendant porté par 3 journalistes. Elles partent à la rencontre de détenus et de leurs proches, mais aussi de gardiennes ou d'avocats, et livrent des témoignages à la première personne sur un sujet qui reste malgré tout encore tabou. Alors, c'est elles qui le disent. Béton cherche avant tout à faire évoluer le regard de la société sur les personnes détenues et leur milieu, à créer une prise de conscience sur leur traitement en France et le fonctionnement de la justice vis-à-vis de ses administrés. La question de la surpopulation des prisons n'est toujours pas réglée, disent-elles. Elles s'appellent Lucille Bess, Lola Manetti et Laure Pechkechian. Et elles tendent leur micro à celles et ceux qui ont connu la privation de liberté. Cet épisode que nous allons passer, donc, c'est la parole de personnes qu'elles rencontrent par l'intermédiaire d'associations ou de comptes Instagram. Ces intervenantes ou intervenants parlent sans filtre de leur quotidien bouleversé, comme partout en France, par l'arrivée de l'épidémie du Covid. C'est une parole qui est souvent ignorée. On pense que ça n'arrive qu'aux autres. Et ceux qui s'expriment sur le sujet sont rarement les premières personnes concernées. C'est pour ça que ce projet leur tient à cœur. Béton veut aussi s'attaquer aux alternatives à la prison, etc. Pour le premier épisode, donc, l'arrivant, on retrouve le témoignage de comment vit-on une arrivée en prison. Et c'est B qui raconte ses premiers jours en prison, rythmés par les cris et les bruits des barreaux. Il décrit aussi ses premières nuits à dormir par terre par manque de place. Donc, en mêlant les témoignages, Béton cherche à susciter la prise de conscience sur le traitement des détenus en France. Le podcast interroge également le fonctionnement de la justice et veut faire évoluer les regards sur un sujet de société qui ne concerne pas que les autres. Donc, on écoute.
J'ai pas les mots, la vérité, j'ai pas les mots, parce que c'est... Faut se mettre à la place d'un détenu pour comprendre un détenu.
Cela fait 1 an et demi que B est en détention. Pour l'instant, aucune peine n'a été prononcée à son égard. Il a été arrêté pour son implication présumée dans un trafic. Depuis, il attend derrière les barreaux la fin de l'enquête sur son affaire pour ensuite être jugé. Quand il est incarcéré fin 2019, c'est la première fois qu'il met les pieds en détention. Il découvre cet univers, ses codes, ses conditions de vie. Il a connu deux prisons, très différentes l'une de l'autre, et aussi l'arrivée du Covid avec toutes ses conséquences sur le quotidien des détenus. Vous écoutez Béton, le podcast sur la détention et ses alternatives, vues par celles et ceux qui les vivent.
Je suis incarcéré depuis fin 2019, en mandat de dépôt criminel. Je suis rentré en prison, numéro d'écrou, un peu perdu. Hein. Tu sais, c'est vraiment un autre monde, là, même dès les premiers pas. La détention, c'est vraiment un autre monde. Je vois les surveillants, donc fouille intégrale dans le sens propre du terme. Et comme tout le monde peut l'imaginer à travers la parole, donc c'est intégral, complet. Je reçois un paquetage d'arrivants, donc il y a un sous-vêtement, une serviette de bain, des bloc-notes, enveloppe timbrée, feuilles, bol, couteau, assiette, enfin, histoire de commencer sa détention. Je me suis retrouvé en détention. Il faut savoir que c'était au moment des grèves d'avocats. Donc moi, je n'ai pas eu de chance. Donc on s'est retrouvé à quatre dans une cellule, deux par terre. Après, je ne sais pas si c'est exceptionnel ou pas, parce que j'entends beaucoup que beaucoup dorment par terre. Et moi, j'ai dormi en fait aux arrivants par terre à environ un peu plus d'une dizaine de jours. Au quartier arrivant, donc il y en a deux, ils étaient dans les lits superposés. Y en a un qui était collé au lit, en bas du lit, et t'en as un, en fait, il était au niveau de la porte et les toilettes, et dormait là-bas. Parce que, comme j'ai dit, c'était période de la grève des avocats, donc tout le monde était maintenu en détention jusqu'à son procès. C'était une usine, c'était une machine, vraiment, en ce moment-là. Et je sais que c'était aussi exceptionnel, parce que même les surveillants, ils le disaient. Donc voilà. Après, je suis monté en bâtiment. Comment commencer ma détention ordinaire au niveau des conditions? Alors, je vais te répondre d'une manière, on va dire, un peu peut-être triste, peut-être heureuse pour certains. Enfin, ça dépend un peu des convictions des uns et des autres. J'étais arrivé dans une cellule dans un état très sale. Ça, par contre, très sale. Au niveau des murs, il y avait un peu des dentifrices. Qu'il faut savoir, les dentifrices, il y en a, ils les collent et ils mettent des posters en faisant comme des post-it. Et ils mettent leurs posters comme ça contre les murs. J'avais l'état de la fenêtre qui m'avait beaucoup marqué, parce que la fenêtre, elle ne se fermait pas en plein hiver. Et pire encore, quelques temps après, la fenêtre est tombée pendant qu'on dormait. Et ça, c'était un truc incroyable. J'ai même filmé, j'ai filmé carrément la scène, tellement que ça m'avait paru improbable, incroyable. On a mis des draps, etc., pour couper l'air, pour que l'air ne rentre pas dans la cellule. Et en fin d'après-midi, justement du lendemain, le temps qu'il ressort la fenêtre, qu'il la change, que l'oxygène se libère, ils nous l'ont changé. Donc j'ai même passé une nuit sans fenêtre. Moi, ça m'avait fait un choc. Qu'on est habitué à un train de vie, à ranger ses affaires, à avoir sa petite chambre bien rangée, les murs propres, on rentre dans une cellule. Le mur, il est colorié. T'as une fenêtre qui rince, qui se ferme pas, t'as la porte qui est, la peinture elle est complètement elle est macabre, la peinture était macabre. Les toilettes n'ont pas de cuvette, rien, donc c'est des toilettes simples, c'est à toi d'acheter, donc ça, le temps qu'on cantine, etc. Donc voilà, pendant des semaines, c'était, on va dire, l'hygiène était un peu restreinte. Et puis voilà. Mais sinon, une fois que je suis monté en bâtiment, je n'ai jamais dormi par terre. J'ai toujours eu un lit dans un lit. Et puis voilà. Je ne suis plus en banlieue parisienne. J'ai demandé un transfert rapprochement familial dans une région voisine. Et là, j'ai connu justement l'arrivant Covid. C'est un peu plus dur, un peu plus strict. Donc j'ai été mis dans une cellule seule. Les arrivants, en fait, on n'est que les arrivants entre nous, donc 7 jours. Au bout du 7e jour, on reçoit un test PCR qu'on doit faire à Luxa. Luxa, c'est l'infirmerie, le médical de la détention. Après ces 7 jours-là d'arrivant, on passe 7 jours de quarantaine dans une cellule spéciale, dite, on va dire, un peu isolée. Hein. Et de là, après la quatorzaine, je suis monté en bâtiment ordinaire. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas encore les masques, malgré qu'ils s'isolaient déjà, parce que les masques, ils sont arrivés vers novembre.
n'a pas de masque dans les coursives, bah, en fait, on se trouve 2 semaines en quatorzaine. C'est une sanction que l'administration pénitentiaire nous donne, alors que franchement, c'est inutile. Parce que si on ne met pas le masque, bon, d'accord, c'est pas bien, mais il y a des surveillants, ils ne le mettent pas aussi, ils ne les mettent pas en quatorzaine. Ça, par contre, c'est de la répression. Ça, je te jure, c'est de la répression ce qu'ils nous font. Tu ne mets pas le masque, hop, quatorzaine, c'est de la pure répression, c'est gratuit. Alors qu'il y a plein de trucs gestes barrières qui ne sont pas respectés. Les parloirs, très grand problème, c'est que maintenant on est séparés, comme dans les prisons américaines. Hein. Depuis la deuxième vague, bah là, ils ont complètement fermé. Donc là, ils ont mis une planche avec un genre de petit plexi pour voir la personne d'en face. Et bah là, c'est toujours comme ça. Hein. Alors que de base, dans un parloir ordinaire, tu sais, t'as une petite table, deux chaises, tu parles, tu peux parler, voir les enfants, si t'as des enfants, faire un petit câlin au petit, tu vois, genre, t'as un peu d'affection que là, t'as rien du tout. Ça fait 18 mois, j'ai pas touché un membre de ma famille, j'ai pas fait un câlin à ma mère, à ma soeur, mon frère, ou à mes neveux, nièces, tu vois. Et ça, c'est le truc, franchement. Genre le peu d'humanisme qui nous restait de l'extérieur, ils essaient de l'abattre. Et ça, c'est le seul point où vraiment, j'ai du mal à l'accepter au niveau carcéral, enfin au milieu de l'administration pénitentiaire. Franchement, c'est une erreur qu'ils ont faite. Je comprends qu'il y a les gestes barrières, mais qu'ils trouvent une alternative à ça, parce que nous, c'est notre seule chose qu'on a en détention. J'avoue, quand vous êtes dehors, on peut vous priver d'une personne, vous avez d'autres personnes, mais nous, on n'a que ça. Avant que j'arrive en détention, donc je suis arrivé juste avant le Covid, pour avoir les autorisations de parloir, ça met tout le temps 1-2 mois. Moi, ça a mis 2 mois, donc dès que j'ai eu mes autorisations, j'ai eu mes premiers rendez-vous de parloir. Écoute bien, parce que je te jure que c'est vraiment vrai ce qui m'est arrivé. J'ai reçu mon premier parloir, c'était un mardi. Et je crois que le président de la République, Emmanuel Macron, avait ordonné le confinement le dimanche. Donc c'est-à-dire mon premier parloir à 2 jours près, il s'est. Bah, en fait, il a été annulé, quoi.
Ouais, c'est triste, mais bon. En fait, j'ai pas les mots, la vérité, j'ai pas les mots. Parce que c'est. Faut se mettre à la place d'un détenu pour comprendre un détenu. C'est-à-dire, moi, avant que je sois détenu, on m'aurait parlé d'un détenu. Ouais, bon, j'aurais compris, je sais que c'est difficile la prison, ok. Mais maintenant que je la vois de l'intérieur, j'ai vraiment une vision déjà plus développée parce que je sais tout ce qui se passe hein, sur les conditions de parloir. Comme je t'ai dit, c'est la seule chose qui nous reste en tant que détenu. Hein. C'est le parloir, c'est le seul côté humaniste. Parce que des fois, les bagarres, les problèmes, les ci, les ça, les insultes, le bruit des barreaux, ça crie, ça crie, ça crie. Bah, nous, c'est 24 heures sur 24 ça, tu vois, j'ai envie de te dire. Et le seul moment où on a un peu d'intimité, on reprend contact avec l'extérieur, un peu d'humanisme, le peu d'humanisme qui nous reste, qu'on le maintienne, ils nous ont mis un gros coup dessus. Ouais. Là, effectivement, ouais, ils nous ont mis un vrai coup dessus. Mais bon, on ne peut rien faire, hein, c'est dans la tête.
Tu vois, il faut qu'il crie là.
Les bruits, est-ce qu'on entend ça tous les jours? Là, ça va, c'est calme. Hein. Je peux te dire la vérité, c'est très très calme pour moi ce bruit-là. Des fois, c'est bien pire. Hein. Des fois, fou. Des fois, c'est. On dirait un asile psychiatrique. Là. Et quand je le dis, c'est pas... je mens pas. Là, des fois, c'est chaud. Hein. Des fois, c'est. Excuse-moi de l'expression, ça. On va dire d'une manière élégante, ça casse les coronets. Voilà.
L'argent, ça joue un rôle, hein, comme un peu partout. Bien sûr, hein, donc quelqu'un qui ne reçoit pas de pécule a une mauvaise condition. Il n'est pas mal vu, mais il sera un peu moins bien vu. À part s'il travaille, il y a toujours une solution. Hein, si tu travailles, tu gagnes un petit salaire, mais un salaire qui te tient durant ta détention.
Alors moi, j'ai de quoi, on va dire, un peu animer ma peine. Là, ça fait depuis que je suis incarcéré, faut savoir que j'ai toujours eu un téléphone, à part durant mon transit de transfert. Depuis que je suis dans cette prison, ça fait plus d'un an, et j'ai le même téléphone, donc j'ai toujours eu mon téléphone. J'ai jamais eu de galère, donc ça va, je m'en sors bien. Enfin, à part quand on est au mitard ou extraction, c'est ça. Enfin, quand je suis dans ma cellule, j'ai mon téléphone, donc j'ai de quoi me divertir. Je mets un câble, un câble Netflix à la télé. Pour regarder une série ou un film sur Netflix. Donc, moi, personnellement, j'ai de quoi m'occuper. Donc, le temps, en fait, c'est simple, c'est tous les jours, c'est la même chose. Il n'y a pas un jour où je me dis, ah bah, ça change. Non, c'est des jours répétitifs, répétitifs. Et ça se répète, ça fait que de se répéter. Et ça, c'est agaçant. J'ai de quoi être en de bonnes conditions personnellement, mais après, c'est pas tout le monde, je te dis la vérité. Moi, je vois des gens, ils ont quatre murs, une télé, un bol, une assiette. Ils n'ont rien d'autre dans leur cellule. Frigo, rien, même pas besoin de frigo. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et ça, c'est trop malheureux. C'est malheureux, malheureusement. Il y en a, toute leur journée, en fait, ils sont dans leur cellule, ils ne sortent pas, ils regardent que la télé sur des peines de 2 ans.
Après, il y a le fait du respect. Le respect, ce que les détenus le respectent, qui tu es, c'était là pourquoi. Ça joue énormément, ça joue énormément. Ce sujet-là, enfin, on va aller dans le tabou du sujet. T'es là pour viol, tu sors pas en promenade, tu vois. Ça, c'est réel dans les prisons, c'est pas. Il y a des bâtiments spéciaux pour eux, pour te dire à quel point c'est. Tu vois. Faut savoir qu'en prison, tout se sait. Pourquoi t'es là, quelles qualifications exactement, parce que voilà, comment c'est durant les extractions, les surveillants ont accès au dossier pénal de la personne écrouée. Et que de là, ils retiennent, ils peuvent faire fuiter certains dossiers. On va pas venir directement t'agresser, te dire, eh oh, pourquoi t'es là? Et oui, dans le sens, au bout d'un moment, c'est sûr que quelqu'un va te poser cette question dans les 48 heures, durant les 2-3 premières promenades. Après, si t'es là pour viol sur une fille de 10 ans, ah, c'est sûr que tu risques d'avoir un accueil un peu. Enfin, quand je dis un peu, très mouvementé même. Tu vois, et enfin, personnellement, je dis pas que c'est mérité, mais. Tu sais, moi je pense qu'il y a deux lois. Il y a la loi de la République et il y a la loi, ta propre loi à toi, ta conscience, la loi de ta conscience. Ça peut être religieux, conscience, juste réfléchir. Et dans ce côté-là, je pense que ouais, c'est un peu mérité. Par exemple, aujourd'hui, enfin, c'est con, hein, ça faisait longtemps que c'est pas arrivé dans ma prison. Parce qu'il faut savoir, c'est une petite prison de province, enfin petite, face à Paris. Hein. Bah, là, il y avait un pointeur, enfin, pointeur, c'est un violeur. Qui était là pour une réclusion criminelle d'une dizaine d'années, je sais plus c'était combien. Et bah là, il sortait jamais de sa cellule. Il est sorti, il y a un mec qui l'a, un blédard, enfin, qui l'a attrapé. Il lui en a placé une, hein. C'était un vieux, hein, plus de peut-être 75 ans. Il est tombé crâne ouvert. Tiens, pour te dire à quel point, oui, c'est des sujets très très sensibles. Et après, bien sûr, tout ceci en prison. Tes requalifications, tout le monde connaît si ça. Donc voilà, le côté, si tu violes une fillette, bien sûr, en prison, ne sort jamais. Et même les chefs, ils les mettent dans un bâtiment spécial. Hein. Ils les mettent pas, ils les jettent pas comme ça dans la jungle. Mais, tu sais, des fois, ils vont au parloir, au médical, ils peuvent croiser d'autres détenus. Il n'y a qu'à ce moment-là que, si le mec il est médiatisé, si voilà, son affaire elle a beaucoup tourné, on sait pourquoi il est là, tu vois. Et après, voilà, ça dépend. Un mec, il est là, oui, violence conjugale, suivi d'un viol. Tu sais, les gens, ils vont peut-être. Ils vont pas traîner avec lui, ils vont éviter de tourner avec lui, mais ils vont pas le frapper, ils vont pas le pousser à le frapper. Parce que tu sais, les gens vont avoir l'aspect, ah, mais c'est ça sa femme, je comprends pas sa femme, pourquoi elle porte plainte contre lui. Tu sais, c'est mythique un peu. Mais c'est vrai que, bien sûr, hein, quand tu es là pour viol, là, le moins de bêtises que tu fais, tu es mort. Déjà, si tu sors. Ben putain, t'as de la chance, c'est que tu l'as bien caché ou bien que t'es dans une aile très cool. Et puis voilà, mais sinon, la plupart du temps, eux, ils sont dans un bâtiment qui se nomme Respecto, cellule ouverte, tu sais, c'est les cellules type CD, hein, genre cellule ouverte, tout le monde va où il veut, c'est réglo là-bas, c'est des profils calmes, c'est, on va dire, c'est listé. Pour accéder à là-bas, il faut qu'on a zéro rapport pendant un certain temps, genre 3 mois dans certaines prisons, 4 voire 6 pour certaines prisons, je crois. Et eux, bah, justement, ils sont mis un peu là. Donc, les affaires un peu sensibles des meurtres sur enfants, viols sur enfants, enfin, c'est très, 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 très mal vu. Kidnapping, c'est très, très mal vu. Alors que tu vas tuer quelqu'un. Bah, on va dire le crime, il est toléré. Enfin, il est. C'est même pas question de tolérer. C'est qu'on va dire un meurtre, c'est bien sûr mieux vu qu'un viol, bien sûr. En prison, et ça, c'est pas un mythe, c'est un truc réel. Et je pense que tout le monde le sait. Personne ne pourra dire le contraire. Et enfin, de certains points de vue, ça peut être compréhensible comme ça peut ne pas être compréhensible. quelqu'un qui va être pacifique. Enfin, je comprends son point de vue quand il va dire oui, mais la justice, c'est la justice. Moi, je comprends la justice. La justice d'agir, pas un détenu, pas un citoyen. On a une justice pour cela. C'est vrai. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, malgré que je suis un détenu, je suis quelqu'un, j'ai toujours respecté l'aspect judiciaire. Enfin, j'ai eu l'estime un peu pour chaque institution. Mais après, voilà, quoi, y a des cas un peu partout. Et après, tu as l'aspect parallèle d'un autre angle, l'angle où voilà, pour la vengeance. Il a violé, il faut le mettre en détention, il faut le frapper, il faut tellement le frapper, il faut le traumatiser la personne, comme ça, quand il sort, bah, il va pas violer. Tu vois? Et d'un côté, je me dis, c'est peut-être pas mal, peut-être ça peut l'empêcher. Moi, personnellement, tu me dis, est-ce que tu préfères qu'il y ait un viol ou un mec qui se fait frapper pour éviter qu'il viole? On sait très très bien, tout le monde va dire, on préfère que le mec il se mange des droites, qu'on le traumatise dans la prison, qu'il vient, qu'il sort, qu'il viole et qu'il tue des femmes. Tu vois? Tu comprends pas? C'est, je comprends chaque point de vue. Juste, en fait, c'est un code. Par exemple, ça fait partie d'un code de la prison. Tu ne traînes pas avec un violeur, sinon t'es mal vu. C'est un code. Ça, c'est un code. On peut pas mélanger tout type de profil avec tout type de profil. Donc, ça joue beaucoup. Après, ça dépend. Est-ce que tu es un nerveux? Est-ce que tu insultes tout le monde? Moi, par exemple, je suis un détenu qui est plutôt cool. Donc, je parle bien. Je suis dans mon coin. Je fais chier personne. Mais après, bien sûr, hein, je me suis déjà battu. Et je me suis planté avec quelqu'un. Tu sais, enfin, c'est la détention. Faut pas se laisser faire. Faut pas se faire marcher dessus. Faut rester dans son coin, mais si quelqu'un veut te marcher dessus, faut que tu aies du répondant. Et moi, c'est pour ça que personne me fait mal à la tête. Et puis les chefs, tu sais, je suis dans une petite prison en province maintenant. Je suis à côté de chez moi. Tout le temps, j'ai des petits qui viennent autour de la prison, qui jettent des projections, tu vois, un peu de viande, un peu de ci, un peu de ça, un peu d'épices. Enfin, ce qu'il n'y a pas dans les cantines. Enfin, c'est con, mais par exemple, moi, dans ma prison où je suis actuellement, il n'y a pas de viande. Il y a zéro viande. C'est une prison, malheureusement. Il y a de la viande. Hein. Quand je dis zéro viande, il y a de la viande, mais de la viande éclatée au sol. Enfin, c'est pas de la viande, c'est du mécaniquement séparé. Donc, ils savent un peu les survivants, ils voient que tout le monde le respecte. Ça joue. Après, il y a aussi le profil où il habite, par exemple, dans la ville, il connaît un peu tout le monde. Donc, il va avoir sa petite équipe, sa petite bande. En fait, chaque profil dépend. Tu sais, tu peux être un grand bandit de quartier, avoir un terrain, un four à 1 million d'euros de chiffre d'affaires par trimestre ou par an. En prison, tu peux te faire frapper et être vu comme une merde. Tu peux, en dehors, être un smicard banal et être en prison, être très respecté. En fait, il y a un profil, mais il y a un profil type à adapter en prison. Si tu as les codes. T'avances, moi au début, par exemple, dans ma première prison, j'avais pas de code, j'étais complètement perdu, hein, j'étais pas comme ici. Là, je suis à côté de chez moi, j'ai les codes, je sais comment répondre, je sais quand il faut prendre par en bas, par en haut, enfin, sur les mots, si je le calcule pas, je prends sa parole par en bas, ou bien je vois qu'il veut me tester, s'il me prend par le haut, bah, j'y vais avec un répondant et je lui fais un rentre-dedans direct. C'est à toi de t'adapter en fonction de la personne, de la prison et de l'ambiance dans ton aile, parce que chaque étage, on va dire, a un peu son monde. Tu as des étages qui voient les gens se connaissent un peu plus. Ça fait longtemps qu'ils tournent ensemble. Tu as des étages, ça part, ça vient. C'est mitigé. Mais oui, le profil et l'argument économique jouent énormément. Pas plus de 80% même.
J'ai connu des gens humains. J'ai même connu des gens qui m'ont marqué, qui m'ont touché personnellement. Des papas, de la quarantaine, cinquantaine. Tu sais, il y a des gens, la prison, malheureusement, ils perdent tout, tu vois. Est-ce que j'ai créé des amitiés? Oui, bah, bien sûr. Des gens que je connaissais déjà de l'extérieur, c'est insolite ce que je vais te dire, mais il y avait quelqu'un, par exemple, quand j'étais en région parisienne, parce que j'ai grandi en région parisienne, il y a quelqu'un, je ne l'avais pas revu depuis la sixième. 12-13 ans après, on se croise dans les couloirs de la prison, tu vois. C'est incroyable, mais c'est vrai, tu vois. C'est plein de petites choses comme ça, oui. Puis voilà. Dans prison, c'est tu tournes, tu rigoles, tu joues aux cartes, tu joues au foot, paye tes dettes, tu risques pas d'avoir de problème. Te montre pas que tu veux prouver aux gens, tu es dans une bonne ambiance, tu es tranquille, il va rien t'arriver. Par contre, si tu veux commencer à prouver aux gens, tu veux commencer à faire le grossiste, bah, tu vas te mettre dans les problèmes comme dehors.
Sur 5 détenus, un il a sur un iPhone et
un téléphone un peu plus de bonne qualité et un qu'on va dire un petit téléphone. T'as vu les genres de petits téléphones sans internet? Donc ça, oui, les bigots, il y en a beaucoup. Ça, par contre, ça tourne à toute patate. Bah, ça te laisse un contact avec l'extérieur, donc c'est pas négligeable. Ça fait passer le temps aussi. Et comme je dis, tu peux contacter ta famille, visio, etc. Bah, moi, il faut savoir que je me suis toujours dit, heureusement qu'il y a des téléphones. Déjà, ça évite beaucoup de gens qui passent à l'acte, les suicides. Je pense qu'il y a beaucoup de suicides qui sont, comment dirais-je, qui sont évités grâce à ça. Parce que je vais même te dire un truc, hein, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts en détention. Alors, ils meurent vraiment. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi les téléphones, c'est un peu un sujet tabou en prison. Moi, c'est ce que je pense. Bah, je vais t'expliquer une histoire à Villepinte. Il y avait quelqu'un qui a mis le feu dans sa cellule suite à une fouille où on lui a pris à son téléphone. Tu vois à quel point c'est sacré des fois un téléphone pour un détenu. Et en mettant le feu dans sa cellule, il est mort. Ça avait fait un peu le tour des réseaux. Donc je crois que c'était à Villepinte, hein, je te dis pas de bêtises, c'était l'année dernière, durant le Covid. Et en dehors de ça, bah, durant le Covid, il faut savoir que comme on n'avait pas de parleur pendant à peu près 3-4 mois, bah, des visioconférences, hein, sinon on n'avait plus de contact avec l'extérieur. Donc, bien sûr que le téléphone, ça sert à quelque chose, et tant mieux qu'il y en a.
La chose la plus difficile quand on est en détention, bah franchement, je crois que c'est la patience. La patience et bah, le fait qu'on soit coupé du monde, bah, qu'on a perdu notre liberté. Bah, je pense que c'est fort, très fort.
Venez d'écouter L'Arrivant, le premier épisode de Béton. Il a été réalisé par Lola Mansi, Laure Pêche-Question et Lucille Bess. Et pour continuer de nous suivre, retrouvez-nous sur SoundCloud, Twitter et Instagram, @BétonPodcast.
Avec le communiqué du collectif de soutien à Jennifer qui fait suite au procès qui a lieu au tribunal de grande instance de Toulouse le 10 juin 2021. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas sa situation, Jennifer est une femme trans incarcérée à la maison d'arrêt de Seyss depuis le mois de juin 2020. Jusqu'à présent, en tant que collectif de soutien, nous avions fait le choix de communiquer uniquement sur ses conditions de détention. Pour rappel, elle a été placée à l'isolement dans la prison pour hommes pendant 9 mois, sur le seul motif de sa transidentité. L'accès au parloir a été très compliqué pour ses proches. l'accès aux produits de la prison aussi. Elle attend toujours un lecteur DVD commandé en octobre. Notre priorité était donc, pour éviter des répercussions lors de son incarcération ou de son procès, de maintenir le lien avec elle et d'actionner tous les leviers possibles pour rendre son quotidien plus digne. Suite à son changement d'état civil, elle a été transférée à la maison d'arrêt pour femmes et nous continuons de nous mobiliser pour la soutenir sur le plan matériel et émotionnel. Aujourd'hui, nous souhaitons rendre public notre positionnement sur le fond de l'affaire et son traitement juridique. Jennifer a été incarcérée après avoir poignardé son violeur dans la rue. La peine prononcée à son encontre, 5 ans d'emprisonnement dont 3 fermes et près de 10 000 euros d'indemnité à payer. Le message du tribunal est clair, c'est pas si grave si vous êtes violé, l'essentiel est que vous ne réagissiez surtout pas. En juin 2020, un homme viole Jennifer. Elle fait du travail du sexe, il lui demande une prestation, elle refuse. Il la frappe, la menace, la viole. Il lui vole ses affaires, son argent, son téléphone. Quelques jours plus tard, elle le reconnaît dans la rue. Elle crie « C'est lui qui m'a violée » et s'ensuit une bagarre à coups de couteau, à la fin de laquelle le pronostic vital de l'homme est engagé. Alors que l'agresseur prétend que Jennifer l'aurait attaqué pour de l'argent, les témoins corroborent la version de Jennifer. Dans les faits, les téléphones de Jennifer et de l'agresseur ont été géolocalisés au même endroit, à l'adresse de l'agresseur. « Troublant », dit le président. Les magistrats ont convenu. Nous ne sommes pas là pour débattre du viol. C'est pourtant le point de départ de ce qui l'a mené au tribunal ce jour-là. Les magistrats n'étaient pas là pour débattre du viol, mais nous savons jusqu'au motif de la robe que portait Jennifer ce soir-là. Le juge a souligné que Jennifer n'a pas été portée plainte au commissariat. Que pourrait-elle attendre d'un dépôt de plainte, si tant est qu'elle y aurait eu accès ? Ses avocates l'ont expliqué. Jennifer a tenté de porter plainte à plusieurs reprises depuis des années. Elle cite un ami. « C'était au moins une dizaine d'agressions par an, pendant 15 ans. Au commissariat, on nous insulte. On nous dit « les travelots sont sortis ». Jennifer n'a jamais eu accès à la justice et à la réparation. Inutile de préciser qu'aucune plainte n'a été prise. Jennifer est une femme trans travailleur du sexe qui n'a jamais été prise au sérieux par la police et la justice quant aux violences qu'elle subit. Mais les magistrats ont convenu que ce n'est pas le lieu de parler du viol, lors du procès d'une femme qui a attaqué son violeur. Comment ne pas faire le lien avec les affaires de Casey, une jeune femme condamnée à 12 ans de prison pour avoir frappé un harceleur, lui causant involontairement la mort, et de Valérie, condamnée pour avoir tué son beau-père, Marie, suite à des années de violences sexuelles. Le positionnement de la justice est clair, criminaliser les femmes qui se défendent, alors que leur protection et la réparation du préjudice qu'elles ont subi n'ont jamais été assurées. Leur colère n'est pas acceptable, leur violence n'est pas acceptable, leur autodéfense n'est pas acceptable, leur vengeance n'est pas acceptable. Le viol de Jennifer n'était pas le sujet, pourtant le viol est un crime s'il fallait le rappeler. Selon l'expertise psychiatrique de Jennifer, elle présenterait une dangerosité sociale et serait incapable de gérer sa colère sans passage à l'acte. Cette expertise psychiatrique s'aligne avec la rhétorique transmisogyne classique. Les femmes trans seraient en fait des hommes déguisés en femmes et donc à ce titre seraient des usurpatrices dangereuses et violentes. Pendant tout le procès, les magistrats n'ont pas manqué une seule occasion de ramener Jennifer à son sexe assigné à la naissance pour faire d'elle la coupable idéale, dangereuse et incontrôlable. Peu importe le fait que le point de départ de cette histoire est un viol, ce n'est pas son violeur qui est dangereux, ni tous les auteurs de des nombreuses agressions sexuelles qu'elle a vécues avant celle-ci. Selon l'expertise psychiatrique et le tribunal, c'est bien Jennifer qui est dangereuse. Or, à la seule échelle de ces 4 heures de procès, elle n'a réagi ni au mépris, ni à la violence, ni à la déshumanisation qui lui ont été infligées. Parmi ces procédés, la transphobie crasse de mentionner son prénom assigné à la naissance, d'utiliser un vocabulaire plus qu'inapproprié, de rappeler qu'au moment des faits, elle était un homme, de la mégenrer de manière répétée et de sans cesse la ramener au fait qu'elle ne serait pas une vraie femme. En effet, alors qu'un témoin raconte qu'il a vu une femme par terre, le président de la séance reformule en ajoutant « Vous pensiez que c'était une femme ?» Le témoin répète « J'ai vu une femme par terre. » Où figure la prise en compte de toute cette violence dans son jugement ? D'ailleurs, où figure la prise en compte de toute la violence qu'elle a subie au cours de sa vie ? Quelle prise en compte des violences extrêmes subies par les femmes comme Jennifer, Casey, Valérie, tout au long de leur vie? Quelle prise en compte des violences extrêmes subies par les femmes trans travailleuses du sexe? Il n'était pas question du viol ce jour-là. Pourtant, Si Jennifer avait été écoutée, soutenue et protégée, en serions-nous là? Elle a donc été condamnée à 5 ans, dont 3 en ferme. Nous en appelons à votre solidarité, racontons son histoire, relayons ce texte, écrivons-lui, envoyons-lui de l'argent. Donc, il y a un contact mail qui est solidarité.jennifer@riseup.net.
Voilà, et maintenant on va passer à un fait divers, on dira habituel dans la gestion de la pénitentiaire. Ça se passe à Arles et c'est un questionnaire de l'OIP qui a été censuré. Alors, prétextant que certaines questions portaient atteinte à la sécurité de l'établissement, la direction de la maison centrale d'Arles a décidé de retenir un questionnaire portant sur les conditions de détention envoyé par l'OIP, l'Observatoire international des prisons, à un détenu. Une censure manifestement sans fondement qui porte atteinte au droit à la correspondance des personnes incarcérées et entrave le travail d'enquête de l'OIP. En fait, le 28 mai 2021, l'Observatoire s'adresse à M. A, détenu à la maison centrale d'Arles, un questionnaire de 15 pages portant sur ses conditions de détention. Quelques jours plus tard, M. A reçoit un courrier de la direction de l'établissement. Elle l'informe que ce questionnaire a été retenu, certaines des questions étant susceptibles de perturber le bon ordre de l'établissement. Elle explique à M. A, il vous est, par exemple, demandé de dessiner votre cellule ainsi que de décrire la cour de promenade. Autant d'informations qui constituent une atteinte directe envers la sécurité de l'établissement. En fait, le droit à la correspondance des détenus avec l'extérieur est encadré par l'article 40 de la loi pénitentiaire de 2009, selon laquelle les personnes détenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, dans la limite de certaines réserves. Ne compromettre ni la réinsertion du détenu, ni l'ordre et la sécurité de l'établissement. Dans les questionnaires que l'OIP adresse quotidiennement aux personnes détenues dans le cadre de son travail d'observation et d'enquête sur les conditions de détention, il est en effet demandé à ces dernières de dessiner leurs cellules. Cela permet de se rendre compte, à titre d'exemple, de l'espace dont elles disposent ou encore de la distance entre les toilettes et l'endroit où sont pris les repas. Les éléments relatifs aux cours de promenade permettent de recueillir des informations sur leur taille, les équipements dont elles sont dotées et donc de vérifier leur adéquation avec les normes en vigueur. Des informations qui ne sauraient raisonnablement être considérées comme pouvant compromettre la sécurité des établissements en question. Et cette censure est d'autant plus surprenante que des questionnaires similaires ont été envoyés à des personnes incarcérées à la maison centrale d'Arles, c'était en mi-2019, sans que cela pose de problème. À l'échelle nationale, ce sont plus de 100 questionnaires qui ont été envoyés, renvoyés et complétés depuis le début de l'année, dont 34 concernaient des centres de détention ou des maisons centrales. Donc c'est un communiqué du 30 juin.
Alors la contrôleuse générale des prisons a fait un rapport, notamment après la visite de la maison d'arrêt de Toulouse Seis, et donc qui relève que la surpopulation à la maison d'arrêt est inacceptable et qu'elle concentre à elle seule plus du quart du nombre de matelas au sol pour l'ensemble des établissements français. Elle précise que le niveau de la surpopulation carcérale est connu de tous, mais qu'aucune mesure n'est mise en œuvre pour y remédier. Ce qu'elle demande, du coup, aux autorités dans ses recommandations en urgence publiées donc au journal officiel. Les 11 contrôleurs qui ont visité cet établissement entre le 31 mai et le 11 juin ont fait le constat d'un nombre important de dysfonctionnements graves qui permettent de considérer que les conditions de vie des détenus sont indignes. La prison de Seis a un taux d'occupation de 186% avec 898 détenus pour 482 places dans le quartier des hommes, 173 d'entre eux d'hommes sur un matelas posé sur le sol, notent les contrôleurs. Dans le quartier des femmes, la situation est à peine moins critique avec 58 détenus pour 40 places dont 16 doivent dormir au sol. Une première alerte avait été lancée en 2017 par le contrôleur général des prisons et la contrôleuse générale des prisons fait état d'une dégradation depuis début 2020. Elle relève que Toulouse 6 compte 40% de détenus d'origine étrangère, 471 détenus, incarcérés majoritairement pour des infractions à la législation sur les étrangers. Elle pointe la responsabilité de l'administration pénitentiaire et des magistrats avec un recours à des libérations sous contrainte étonnamment faible, de l'ordre de 1 à 3%. Elle signale aussi la présence de nuisibles, cafards et punaises, jusque dans les lits des détenus, ou de rats dans les espaces de promenade jonchés de détritus. Pour conclure, elle réclame des mesures urgentes concernant la surpopulation pénale, la rénovation des cellules, la désinfection, l'accès aux soins somatiques et d'autre part, une reprise en main du fonctionnement de l'établissement, notamment pour faire cesser le climat de violence. Elle enjoint au ministre de la Justice et de la Santé de faire procéder à une inspection approfondie. Évidemment, le garde des Sceaux répond qu'il a pris acte de l'ensemble des recommandations. Éric Dupond-Moretti donc rappelle que son projet de loi sur la confiance dans l'institution judiciaire prévoit des dispositions pour favoriser les alternatives à la détention provisoire et des mesures de libération sous contrainte automatique pour les peines de moins de 2 ans, ce qui ne règle en rien la situation de la prison de Saïs. Et de son côté, le ministre de la Santé, Olivier Véran, détaille des mesures destinées à l'amélioration de l'accès aux soins, notamment une réévaluation du contrat liant l'administration pénitentiaire à son sous-traitant Sodexo, qui rencontre des problèmes pour réaliser ses missions d'extraction sanitaire de détenus ayant besoin de soins hospitaliers. Bon, on a un peu l'impression que, comme d'habitude, hein, l'État ne va pas répondre aux réclamations faites par la contrôleure générale des prisons et que la situation va continuer en l'état.
Oui, surtout qu'elle s'adresse au ministre concerné, quoi. Mais bon. Et alors, non seulement ça ne va pas se résoudre... Pardon, excusez-moi. Mais la surpopulation continue. Bon, je pense qu'on va passer un petit coup de musique...
Nueve vidas, yo quiero nueve vidas, para martilla noche, yo quiero nueve vidas, nueve vidas, yo quiero nueve vidas, para martilla noche, yo quiero nueve vidas, si un gato puede tenerlas, yo también quiero vivirlas, la vida es muy corta, yo quiero que me den más, yo quiero que me den men, yo quiero que me den más, voy más y más, yo quiero que me den más, ¿qué coño saco yo con una sola vida, si amor tengo para darte toda eternidad, ¿qué coño saco yo con una sola vida, si amor tengo para darte toda eternidad, así que no, no. Perdamos el tiempo, mira, mira, nena, como yo te quiero. No, 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 perdamos 10 minutos. Mira, mira, nena, como yo te quiero. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martes de anoche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martes de anoche, yo quiero nueve vidas. Más y más. Más y más, yo soy un gato callejero, malido tras molido. Me quedo bajo la ventana para darte serenata. Yo no me canso nunca, sargento es vitamina. Ah, dame tu ordenita, yo quiero que me den más. Voy más y más, cada día más y más. Más y más, cada noche más y más. Y gozaremos de amor los dos durante siglos. Y amor tengo para darte hasta que está ahí el mundo. Así que no, no, perdamos el tiempo. Mira, mira, nena, como yo te quiero. No, 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 perdamos ni un minuto. Mira, mira, nena, como yo te quiero. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martes de anoche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martes de anoche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martes de anoche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martes de anoche, yo quiero nueve vidas. Vivir 100,000 años hasta que el sol reviente. Contigo, mi nenita, nunca me cansaré. Ah, nunca me canso, no, no, nunca me cansaré. Aunque le demos la vuelta a toda la galaxia, te seguiré nadando China, volando hasta la luna, corriendo por la sierra, saltando el Himalaya. Te seguiré nadando China, volando hasta la luna, corriendo por la sierra, saltando el Himalaya. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martes de anoche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martes de anoche,